Écoute voir. Un podcast de cette radio consacré à l'audiovisuel.
Bienvenue sur cette radio, ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission. Bonjour Isaline.
Salut Dan.
On va animer cette émission Écoute voir, une émission dédiée à l'audiovisuel. Donc on va parler de tout ce que vous écoutez, regardez sur vos différents écrans. Avec une émission très chargée aujourd'hui puisqu'on a vu ensemble une série qu'on va débriefer tout à l'heure.
Oui, qui s'appelle Délit de preuve.
Délit de preuve, et on est dans le monde scientifique de la police et des jugements. On vous dira tout à l'heure ce qu'on en a pensé. Évidemment, on retrouvera aussi les news des différentes plateformes de streaming, il y en a beaucoup. Il y a même des news pas si réjouissantes que ça.
Ah,
on en parlera tout à l'heure. Ouais, il y a du triste. Hein.
Ah, non.
On parle d'attentats, de trucs comme ça, tu verras tout à l'heure. Vraiment nul. Mais on aura des recos, c'est-à-dire que chaque semaine, on a décidé de partager avec vous ce qu'on a bien aimé dans la culture autour de nous. Isaline, qu'est-ce que tu nous partageras tout à l'heure?
Je vais parler d'une série un peu de film, quoique, qui s'appelle Planqueur.
Planqueur, ouais, ça commence bien avec le nom en tout cas.
Oui, ben faut pas partir, voilà, l'habit ne fait pas le moine. Hein.
Et moi je vous proposerai un podcast qui s'appelle Camille, qui parle d'hétéronormalité.
Ok.
Et d'hétéronormativité, c'est encore pire.
D'accord.
Donc si j'arrive à le dire sans bafouiller d'ici la fin de l'émission, vous pourrez m'envoyer des cadeaux. Le sondage évidemment, quel est-il?
Il parle du nouveau film de Kerry James, Banlieusard, qui est sorti sur Netflix samedi dernier.
Et sans oublier nos bons plans aussi de ce qu'il y a à voir prochainement sur Netflix et autres plateformes de streaming. Vous écoutez à coup de voir. Et on parle dans notre sondage de la semaine du film de Kerry James sur Netflix.
Exactement. Après 5 ans de travail et de galère, Kerry James a sorti son film samedi passé sur Netflix. Alors pourquoi tant de galères? Eh bien parce qu'aucun diffuseur ne voulait acheter son film.
C'est vrai que c'est un film qui a vraiment dérangé, non?
Bah c'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous allez l'entendre tout de suite, le film met en lumière le rôle de l'État dans la situation des banlieues en France. C'est un sujet assez cher à Kerry James, quand même.
T'habites ici depuis longtemps?
Depuis toujours. Ici, j'ai toute ma vie. J'ai mon petit frère, j'ai ma mère, et j'ai un grand frère.
La vie, c'est une question de choix, c'est tout.
Sauf que toi, ton choix, il a tué papa.
C'est mon choix, il a tué papa?
Bonjour, maman.
Fous-moi la paix.
Laisse-moi le temps.
Sors de ma vie. Je n'ai rien à voir avec toi.
Lors de l'arrêt de détermination, car ceci n'est pas une
maman, place. Maman, au lieu de parler, tu nous ailles, va le chercher.
J'ai trop honte, mon bouquet.
Lui, là, il suit le même chemin que l'aîné.
Et je vais maintenant vous révéler le sujet de votre débat. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France?
Vous avez la parole.
La banlieue, je la connais.
Lorsque deux banlieusards plongés dans le trafic de drogue entrent dans une guerre pour des raisons strictement pécuniaires et que cette guerre aboutit à la mort de l'un d'entre eux, est-ce l'État qui fournit l'arme à l'assassin? Lui ordonne ou presse son doigt malgré lui sur la détente? J'emmerde votre juge, j'emmerde votre hypocrisie.
Oui, il est énervé le bonhomme.
Ah, il est pas content, hein. Et Banlieusard, donc, c'est l'histoire de Souleymane, Noumouké et Demba, ces trois frères de la banlieue de Champigny, qui vont se retrouver sur des chemins assez différents. C'était en fait une façon pour Kerry James de montrer qu'il y a plusieurs visages à la banlieue. Alors on vous demande cette semaine, Banlieusard sur Netflix, est-ce que c'est cool ou est-ce qu'on s'abstient?
Et vous pouvez répondre à cela sur notre compte Instagram. Le compte c'est 7 Radio, le chiffre 7, R-A-D-I-O.
Écoute voir.
Et c'est l'heure des news et on commence cette série avec un article écrit par Robin Jaunin pour Radio Lac où on apprend que le streaming est toujours plus fort chez les jeunes Suisses. Il fait référence à une étude Netmetrix qui a interrogé 4000 Suisses sur la consommation, sur leur consommation sur Internet. On y apprend entre autres que les jeunes sont le plus connectés avec 91% des 10-13 ans et plus surprenant encore, attention, c'est 15% des moins de 4 ans qui ont déjà un accès à Internet.
Quoi ?
Des moins de 4 ans.
Eh mais c'est pas bien ça.
Bah c'est les parents qui éduquent avec l'iPad.
Tu sais que normalement on devrait pas mettre un écran devant les yeux d'un enfant de moins de 3 ans.
Ouais, bah apparemment entre 3 et 4 ans, ils sont 15% à avoir Internet.
Et bah voilà.
Quand on leur demande à ces jeunes ce qu'ils font sur Internet, donc tous les jeunes, hein, pas ceux de moins de 4 ans, 67% des jeunes font du streaming pour regarder des vidéos, la télé en ligne ou encore écouter de la musique. C'est une bonne nouvelle pour nous. Pour plus de 50% d'entre eux, ils s'informent, notamment grâce au moteur de recherche. Donc c'est ce que dit l'étude, je trouve bizarre de...
Oui.
Tu vas sur Google pour chercher l'actu, donc voilà, ça doit être une traduction qui s'est perdu. Et les jeux vidéo en ligne viennent en troisième position.
Ça paraît aussi plus logique pour des enfants quand même.
Surtout. Une autre étude maintenant où on apprend via l'Institut français Médiamétrie que 9 utilisateurs sur 10 des services de vidéo à la demande, Netflix en première place, partagent leur abonnement et donc leur mot de passe avec d'autres personnes.
Ouais.
On en parlait la semaine dernière, toi tu le fais pas.
Non, je le fais pas.
Moi on est en petit partage, voilà, on est 5 personnes dessus, c'est super sympa.
Ah oui, quand même.
Alors cette pratique, elle est interdite par les conditions d'utilisation, ça c'est en théorie, elle est courante et presque tolérée par Netflix, c'est-à-dire qu'ils font pas grand-chose pour arrêter ça, même s'ils l'interdisent. Mais ça sera pas le cas pour Disney+, puisqu'ils ont déjà annoncé un partenariat avec Charter Communications aux États-Unis. Ils auront pour mission de lutter contre cette pratique, mais ils n'ont pas encore annoncé comment ils allaient s'y prendre, ni même s'ils vont y arriver, d'après moi.
C'est ça, comment tu veux contrôler le fait que tu aies deux télés dans le même immeuble ou dans deux maisons différentes?
Tu pourrais contrôler sur le fait, Netflix le fait déjà, tu vois, si t'es plus de, t'as le droit à 5 personnes, si t'es plus de 5 à essayer de te connecter, ils savent qu'il y a une entourloupe.
Ok.
Et après, tu peux regarder par rapport aux positions des gens qui se connectent.
Ça mais
là, ça devient
loin.
Très compliqué.
Ça va vraiment trop loin.
Et je pense que, bah, tu vois, il y a quand même 9 personnes sur 10 qui le font, donc c'est pas une petite manne financière. Il y a beaucoup d'argent à gagner si effectivement tu arrives à rester strict sur les 2 personnes par compte. Direction l'Allemagne maintenant, où le mercredi 9 octobre à Halle a eu lieu un attentat antisémite. Alors un attentat qui a été streamé en direct sur la plateforme Twitch. Twitch qui est spécialisée dans la diffusion de sessions de jeux vidéo et d'e-sport. Alors aucun lien entre l'attentat et le jeu vidéo. On le répète, aucun lien, à part que cette plateforme a été utilisée comme l'aurait pu être Facebook Live par exemple. Et ça avait été d'ailleurs le cas pour l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, l'attentat qui avait été diffusé en direct sur Facebook. Alors la porte-parole du site Twitch.tv a annoncé que la vidéo a été retirée aussi vite qu'il aurait été possible, sans pour autant préciser combien de temps la vidéo est restée en ligne. Ils précisent aussi qu'ils vont lutter pour pas que ça arrive dans le futur, mais bon, là aussi, comment
qu'est-ce
tu veux lutter
faire?
Un peu plus de légèreté maintenant, direction l'espace, puisque cette semaine, l'Académie royale des sciences de Suède a décerné le prix Nobel de physique à 3 cosmologues. Une moitié pour le canado-américain James Peebles, pour la découverte théorique en cosmologie physique, et l'autre moitié pour le duo Michel Mayor et Didier Queloz, pour la découverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire. Les travaux des deux Suisses ont changé à jamais notre perception du monde, c'est ce qu'a ajouté l'Académie, et je vous en parle puisqu'il y a seulement 2 petits mois, le youtubeur Axolot sortait une excellente vidéo, un documentaire appelé Chasseur de monde au pluriel, où on peut y voir Michel Mayor justement. Je vous recommande chaudement d'y consacrer les 30 minutes nécessaires pour le voir, si vous aussi vous aimez vous perdre et vous donner le vertige en pensant ce qui peut-être nous entoure dans l'espace.
Y a-t-il d'autres mondes au-delà du nôtre? 300 ans avant Jésus-Christ, le philosophe grec Épicure écrivait déjà la chose suivante. Il y a un nombre infini de mondes semblables au nôtre et un nombre infini de mondes différents. L'idée qu'il existe d'autres planètes en dehors de notre système solaire n'est donc pas nouvelle. Mais en l'absence de preuves, rien ne permettait d'en avoir la certitude. Et puis, en 1995, 2 astronomes suisses firent une découverte qui allait bouleverser l'histoire des sciences et ouvrir une nouvelle ère, celle des chasseurs de mondes.
J'adore sa voix. Toi, elle t'angoisse, Isabelle.
Alors, de manière générale, ce thème-là m'angoisse, mais
moi,
à
j'adore,
mourir.
Mais je finis le reportage et je suis en flip, en mode « Oh mon Dieu, on est
ah
rien
non,
du
moi,
tout ».
Moi, je suis en PLS à la fin du truc. Hein.
Eh bien, je vous recommande vraiment, vraiment d'aller voir Chasseur de monde. Le lien vous attend dans la description du podcast 7 Radio, disponible sur 7radio.ch. C'est le moment pour nous de partager nos petits secrets, nos petits plaisirs
mais
coupables,
oui.
Notamment sur Netflix avec toi Isa, une série.
Oui, ma fin de semaine, elle a plutôt bien débuté puisque vendredi après-midi, j'ai reçu une alerte de Google, de Netflix, pour m'avertir que la saison 2 de Planqueur était dispo. Donc j'étais ravie. Alors Planqueur, c'est quoi? Ben, c'est une série française qui raconte l'histoire d'Elsa, une jeune parisienne. Ça fait 2 ans qu'elle s'est séparée de Max et elle déprime, tu vois, du style plus possible d'aller de l'avant. C'est là que ses 2 meilleures amies, Charlotte et Émilie, décident de forcer le destin pour qu'Elsa passe à autre chose. Et elles engagent un gigolo, un pute, comme on dit dans la série. Alors ce brave jeune homme, c'est Jules. Alors attention, spoiler alert, si vous n'avez pas vu la saison 1, voici un petit résumé.
Parce qu'on toi, nous prend encore que tu vas au yoga prénatal?
Ah oui, au rythme où je suis censée y aller, le Dalai Lama peut aller se rhabiller. Hein.
Tes meilleures potes avec mon frère Antoine, il n'y aura pas de troisième fois.
La vie des autres est tellement mieux. Moi, ça va vraiment pas, là. Hein.
Non, mais attends, t'es sur Instagram, là?
Ouais.
Ouais, bah d'accord, super, très bon move. C'est l'idéal quand tu déprimes. Hein. Va directement sur le compte de Gisèle Bündchen.
2018, elle a pas besoin d'un mec pour reprendre sa vie en main.
Mais pas d'un mec, mais d'un ou plusieurs pénis dans son vagin régulièrement.
Moi, c'est Jules.
Elsa.
Dîner vendredi soir. Écoute, je vais t'expliquer. Tu vas y aller, ma fille.
Je suis bidon.
Je vois tout sauf quelqu'un de bidon, moi. T'es magnifique.
Le mec m'envoie
un message pile au moment où je renonce à la vie.
C'est une pute. Je comprends pas. Il est là pour la sauver. Enfin, pour la baiser. Non mais attends, le mec, c'est pas un pute-pute, hein. Oh. Ah non, c'est un pute plus, hein. Voir plus.
Mais comment t'as pu lui faire ça, quoi?
Tu la kiffes un peu.
Mais vous êtes trop chelou ce soir. Vous me cachez un truc ou quoi?
Donc ça, c'est ce qui se passe dans la première
saison.
Dans la saison 1.
Alors évidemment, hein, vous vous en doutez, Jules et Elsa tombent amoureux. Ce qui évidemment fait revenir l'ex d'Elsa, le fameux Max. Et puis, bah, boum, Elsa découvre la supercherie du pute. Et là, c'est le drame. Elle décide donc d'envoyer tout valser et de partir à Buenos Aires.
Pourquoi il y a quoi à Buenos Aires?
Alors, tu verras. Pour cette nouvelle saison, sortie la semaine passée, donc, on retrouve Elsa qui s'est cloîtrée dans la rue Buenos Aires et non pas vraiment à Buenos Aires, comme elle l'avait fait croire à ses copines. Et après 4 mois de mensonges, bah, il est l'heure de revenir à Paris et d'avouer qu'elle est amoureuse de Giulio. Parce que oui, Jules, en fait, c'était juste pour son métier de pute.
Donc attends, il s'appelle vraiment Giulio et son pseudo, c'est Jules.
Et voilà.
Il était cherché loin, hein.
Pas Giulio, tu vois, ils l'ont fait à la French.
Giulio.
Giulio.
Oh mon dieu.
Ouais. Alors ça sonne cucu, mais franchement, c'est super. C'est un super remède contre les journées pluvieuses. C'est frais, c'est fun. Ça dépicte assez bien les challenges de la vie des trentenaires, leurs responsabilités et la fragilité des sentiments de chacun. Perso, moi, j'avais regardé la saison 1 un peu en mode Elsa, hein, c'est-à-dire célibataire et déprimée. Et il faut dire que ça fait vraiment du bien au moral. T'arrives clairement à te projeter et à rire de toi-même, finalement.
En fait, c'est un pute qu'il te faut.
Écoute,
c'est un Giulio.
Si tu proposes...
Je t'arrange ça.
Merci. Non, je conseille vraiment cette série Plan Cœur, dont la saison 2 est sortie la semaine dernière sur Netflix.
Mais alors, tu la conseilles à qui? Aux filles, aux garçons?
Mais en fait,
à tout le monde.
C'est vraiment une série faite pour les filles, on va pas se mentir, mais ça va faire du bien à tout le monde.
Eh bien, on regardera ça. Plan Cœur saison 2 sur Netflix dès maintenant?
Oui.
Dès vendredi, en fait.
C'est passé déjà, vendredi.
Dès vendredi passé, super. Et moi, j'aurais une recommandation aussi, ça arrive juste après ça.
Écoute voir. Un podcast de cette radio consacré à l'audiovisuel.
C'est à mon tour de vous recommander quelque chose et je suis sorti un peu du carcan de l'épisode Netflix. Je vous recommande aujourd'hui un podcast. Oui. Sorti au début du mois de septembre, le podcast s'appelle Camille. Camille, c'est un nom qui va autant à un garçon qu'à une fille et c'est d'ailleurs le sujet de ce podcast. Mais c'est aussi le prénom de l'animatrice Camille Regache. Dans ce podcast, elle va parler d'hétéronormativité parce qu'aujourd'hui, la société, elle est hétéro. On le sait et même si on est beaucoup à être complètement woke, ouvert au fait que certaines personnes sont homosexuels, pansexuels ou autres, la fameuse communauté LGBTQIA+, la société est encore très hétéronormée. Par les comptes pour les enfants, où la princesse se fait sauver par un prince, par la publicité, les magasins de vêtements, l'administration, le langage, etc., etc. Par exemple, les vestiaires dans l'école, c'est quelque chose qu'on s'en rend pas compte. Il y a 2 vestiaires,
c'est
les filles et les garçons, et on les sépare parce qu'on part du principe qu'un garçon va être intéressé à avoir une fille nue, et l'inverse, alors que finalement, un garçon qui serait homosexuel va être intéressée à regarder des machins des garçons. Une fille, la même chose, une fille lesbienne. Il y a des garçons qui sont pansexuels, donc ils pourraient être intéressés aux deux, etc. Mmh. Mais ça, on n'y pense pas du tout. Pour nous, la sexualité est dans l'hétéronormativité de la société. C'est garçons, filles, on les sépare parce qu'ils sont forcément intéressés l'un par l'autre. C'est l'un des exemples qui sont traités dans ces épisodes. Alors Camille, elle est lesbienne, donc les questions sur cette prétendue normalité, elle se les pose souvent et elle en discute dans son cercle d'amis. Mais d'après elle, et elle a raison, pour répondre aux questions qu'elle se pose, elle va surtout chercher la réponse en parlant aux hétéros. Par exemple, dans le premier épisode qui s'appelle « Pourquoi je peux dire PD et pas toi ?», elle s'interroge sur ces mots qui, pour une communauté, permettent de se définir, alors que pour une autre, deviennent des insultes. Pour en parler, Camille, elle est venue discuter, notamment dans ce premier épisode, avec Sébastien Chauvin, sociologue responsable du Centre en études de genre à l'Université de Lausanne. C'est un podcast français d'une trentaine de minutes, produit par Binge Audio, et je vous propose d'écouter sa bande-annonce.
Je suis née dans une société où l'on est soit homme, soit femme. J'ai grandi dans une société où l'on couche, on épouse, on élève un enfant uniquement avec une personne du sexe opposé. Je vis aujourd'hui dans une société où les droits des homosexuels avancent, mais les normes liées à l'hétérosexualité, elles restent. Alors aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'on a vraiment besoin du genre sur les papiers d'identité? Comment faire comprendre que traiter quelqu'un d'enculé, c'est homophobe? Et pourquoi un bon gay est un gay caché? 2 fois par mois, je vous propose de poser ces questions autour des normes de genre, de sexualité et d'identité dans un podcast qui parle des lesbiennes, des gays, des bi, des trans, mais surtout surtout qui parle des hétéros. Ça s'appelle Camille. Camille pour le côté masculin et féminin. Camille pour le côté anonyme. Les zadistes comprendront. Camille, ah oui, parce que c'est aussi mon prénom. Rendez-vous le 12 septembre pour le premier épisode. Abonnez-vous sur toutes les applications de podcast et sur binge.audio.
Voilà le pourquoi du comment, c'est ma recommandation. Alors je suis en cours d'écoute, j'ai pas encore tout écouté, mais c'est vraiment très bien fait avec des épisodes qui sont construits intelligemment. Là aussi elle va se déplacer, typiquement elle vient de Paris pour parler à un professeur lausannois, un sociologue lausannois. Donc c'est vraiment des épisodes qui sont très fournis, on va au fond des questions et elle n'hésite pas à utiliser les mots quand il le faut, typiquement à expliquer pourquoi elle peut dire PD, parce que elle ça la définit, mais nous on n'a pas le droit, enfin les hétéros n'ont pas le droit, parce que à notre sens, ça devient une insulte, qu'on le veuille ou non. Les épisodes sortent donc toutes les deux semaines, il y en a déjà trois et je vous recommande chaudement son écoute. Le lien se trouve évidemment dans la description de notre podcast Écoute Voir sur cetteradio.ch où vous pouvez vous rendre directement sur binge.audio. Chaque semaine, Isaline ou moi, on choisit une pièce à regarder, que ce soit sur Netflix, un podcast, etc. Et on en débriefe dans l'émission, on le débriefe dans l'émission. Aujourd'hui, ça se passe sur Netflix.
Oui, cette semaine, on a regardé la série Délit de preuve, traduction parfaite, évidemment, du titre original Exhibit A. Hein,
qui voudrait dire preuve numéro une.
Voilà. Alors, dans cette série, on découvre à travers de vraies histoires de crimes, on précise, ça se passe aux États-Unis. Et bien que les techniques des enquêteurs sont parfois douteuses et que les preuves peuvent se retourner contre les innocents. Alors on écoute tout de suite la bande-annonce.
Au fond, la vérité absolue existe. Le problème, c'est qu'on est tous humains. Et qu'en tant que tel, on n'est pas fondamentalement capable d'accéder à cette vérité absolue. Aucune analyse scientifique n'est jamais parfaite. Si c'était le cas, on aurait réponse à tout. Il n'y aurait plus aucun mystère dans l'univers. Or, on en est loin. À chaque avancée technologique, on augmente un peu plus nos chances d'accéder à la vérité absolue. Mais on n'y est pas encore en tant qu'être humain. Alors on n'y est pas non plus en tant qu'expert en criminalistique.
Ça, c'est un extrait d'un des épisodes de Délit de preuve.
Délit de preuve, ouais. Et dans chacun des quatre épisodes que compte la série, on nous montre comment un type de preuve peut être détourné. Donc on passe en revue les analyses vidéo, les traces de sang, les chiens renifleurs et même l'ADN. Alors pour illustrer tout ça, des vraies personnes qui clament donc leurs innocences malgré que les analyses les aient fait condamner. Certains ont obtenu gain de cause plusieurs années après leur procès et par la suite ont été reconnus innocents. D'autres se heurtent encore au système et sont toujours en prison. Les épisodes, il n'y a pas vraiment de règles, font entre 29 et 41 minutes.
Mais ça reste court, ça se regarde facilement.
Absolument, ouais. Ben, d'ailleurs, t'en as pensé quoi, Dan ?
Alors, moi, sur la forme, j'ai beaucoup aimé. Mais encore une fois, et comme à chaque fois, je ne sais pas si c'est les bandes-annonces Netflix qui sont nulles, je trouve qu'on ne peut pas leur faire confiance. Parce qu'en regardant la bande-annonce, on a l'impression qu'on a une sorte de Dexter à moitié. Là, on est dans la police scientifique. Mm-hmm. Toutes les enquêtes sont mélangées, alors qu'on est vraiment plus dans un format, genre les enquêtes qui passent sur M6 ou TMC ou j'en sais rien quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment un épisode, une enquête, on va à fond et on passe à autre chose. Les épisodes, finalement, on n'a pas besoin de les voir dans l'ordre ou même à la suite, pour en voir qu'un et ce serait très bien, alors que la bande-annonce nous fait croire, enfin tu vois, survend l'action, survend le fait que oh, y a des meurtres, ça va être fou, alors que finalement c'est vraiment un reportage sur ce qui se passe après, sur l'enquête, donc il n'y a pas d'image choc, à part l'épisode sur le sang, les traces de sang où effectivement il y a beaucoup de sang.
C'est vrai.
Mais voilà, c'est ça. Et j'ai bien aimé aussi le format de chaque épisode. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une façon de faire qui est très claire. Il y a un expert qui commence l'épisode en expliquant son métier et les limites de celui-ci.
Donc, exact.
Tu commences l'épisode en disant, bah voilà, ce mec, c'est celui qui a compris. Il fait les choses comme il faut. Il a compris que bah, il a une méthode. Typiquement, les chiens renifleurs qui cherchent les cadavres. Il t'explique, bah voilà, mon chien, il a été entraîné, il fait ça, il le fait bien, etc. Et après, on nous explique le cas, donc voilà, le procès, c'est ça. Et il y a l'avocat de l'accusé, donc celui qui a priori est lésé, qui explique comment et pourquoi le procès n'est pas valable, parce que la méthode scientifique ne fonctionne pas. Fonctionne pas parce qu'elle est trop on-off, ou alors il n'y a pas assez de de nuances, typiquement avec la caméra, on peut, bah voilà, une image qui a été faite, finalement c'est une série de photos, si l'image n'a pas été faite au bon moment, on pourrait croire que, alors que non. Et ça c'est sympa, parce que je trouve que l'épisode est bien fait, et à chaque fois c'est la même structure et on s'y retrouve, mais il faut... Il m'a fallu peut-être deux épisodes pour comprendre qu'il ne faut pas que je fasse confiance au premier gars qui parle.
Ah d'accord.
Parce qu'au début je suis là, bah lui c'est l'expert, je peux avoir confiance, il a raison et tout ça, mais non.
Bah moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien qu'il y ait une série de ce genre qui se fasse, parce que tu vois, on est tellement habitué avec des séries comme Les Experts, ce genre de choses là, à se dire oh l'ADN nanana, alors le type est coupable etc. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait non. Et typiquement aux États-Unis où alors je sais pas comment ça marche ici à vrai dire, mais où ils ont ce système de jurés
ça
qui condamnent etc. les gens,
tout le long,
bah tu te rends compte que finalement tu donnes le pouvoir à des gens qui ne comprennent strictement rien à ce
que
tu leur
présentes.
Et qui fonctionne
à l'émotionnel.
Absolument. Donc tu vas vers un type et tu lui dis ouais mais regardez sur la vidéo nanana etc. on vous prouve blablabli blablabla, alors qu'en fait la preuve est absolument irrécevable. Mais comme de toute façon tu parles à des gens qui comprennent pas ce que tu leur dis, on condamne n'importe qui.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça hyper triste et quelque part aussi un peu révoltant. Et pour d'autres raisons aussi, parce qu'on se rend compte que ça fonctionne aussi sur les relations entre les gens. Typiquement, il y a un épisode d'un jeune black gay qui se fait battre par une milice juive à New York. Et en fait, tu te rends compte que... pour une histoire de connexion entre la milice et la police de New York, ils arrivent à faire mettre des traces ADN et faire...
Mais ils les ont pas mis, en fait.
Mais non.
C'est juste qu'il y a tellement peu de traces ADN, c'est là où la méthode scientifique casse, c'est qu'il y a tellement peu de traces ADN qu'ils sont obligés de faire des statistiques pour dire ça pourrait ressembler à tel profil, et c'était un profil tellement large que finalement ça aurait pu être n'importe qui.
Voilà.
Mais comme il fallait un coupable et que c'est un cas, c'était un jeune noir qui était homosexuel, frappé par une bande de juifs, à New York où on essaye de cultiver cette différence et cette collectivité et ce melting pot, il fallait un coupable.
Et ils ont mis n'importe quel juif du coin qui n'avait strictement rien à voir avec ça. Et ouais, ça m'a... Quelque part, ça m'a révoltée, je crois. Mais c'est bien qu'on nous montre aussi cet aspect-là des choses et pas tout le temps nous dire, tout est...
On a l'impression que la science, c'est... T'as raison, t'as tort, oui,
exact.
Non, alors que finalement, bah, c'est une méthode qui te donne des pistes pour regarder.
C'est ça.
Et d'ailleurs aussi, dans la méthode de comment l'épisode est construit, souvent à la fin, on revoit le gars qui était si sûr de lui au début et qui dit, j'ai toujours dit, c'est une méthode scientifique qui nous donne une hypothèse, genre peut-être que ça peut être lui, mais ça reste une hypothèse. Après, il faut d'autres preuves pour pouvoir l'incriminer. Et c'est le cas avec la chaussure, c'est le cas aussi dans d'autres épisodes où finalement, la preuve est tellement petite. Typiquement, il y a le cas du chien qui va chercher un enfant qui est disparu. L'enfant est disparu. Il part tout de suite du principe que l'enfant est mort. Ils font venir un chien renifleur de cadavre.
De cadavre, ouais.
Et le chien renifle au moment où il sent le berceau et la voiture du père. Donc, le gars qui a son maître chien, il fait juste, il dit, mon chien, il a reniflé, quelqu'un a été mort là-dedans.
Sans savoir si ça peut être l'enfant ou n'importe qui, ou un animal mort, ou ça pourrait être n'importe
Exactement.
Quoi.
Exactement. Lui, il dit ça au procès, et les gens disent, il y a eu un cadavre, c'est forcément le père qui l'a tué. Et il est incriminé.
Et le père est en prison depuis des années.
C'est ça qui est fou, et c'est ça qui me dérange aussi avec cette série. T'as dit que certains cas, alors c'est ça, si j'ai pas compris la série, t'as dit que certains cas sont encore en prison, d'autres. Dans la série, ils donnent pas la réponse. On sait pas comment ça finit.
Le fameux juif qui a été accusé à tort, à la fin de l'épisode, ils expliquent qu'il est blanchi de toute...
Alors j'ai mal suivi. Parce que moi, j'avais pas vu et c'est ce qui m'a frustré. À chaque fois, j'avais l'impression qu'on nous donnait pas la fin. Je me disais, est-ce que les procès sont encore en cours et on sait pas.
Les trois premiers, effectivement, on n'a pas de fin.
Okay.
Mais le dernier, ils le blanchissent.
Ok. Donc voilà. Bon, alors un point négatif pour moi à retirer, mais finalement, c'était une bonne série. Et je me demande même, j'ai presque hâte qu'il y ait une deuxième saison.
Bah, ça a souhaité qu'il n'y en ait pas, parce qu'il faudrait pas trop de cas comme ça.
Oui, bon. Effectivement. Mais c'est. Alors, comment ça s'appelle en français ?
Délit de preuve.
Délit de preuve, Exhibit A, et on vous recommande. T'avais ça en recommandé sur Netflix ?
Je sais plus comment je suis tombée là-dessus.
Il y a finalement assez peu de liens sur Netflix, ils te le proposent pas forcément, ça fait partie de ces séries qui gonflent le catalogue Netflix. Mais c'est vraiment quelque chose à regarder et de très intéressant. Merci Isaline.
De rien.
Écoute-moi sur cette radio.
C'est le moment de l'émission, on vous donne une liste de choses à regarder prochainement sur Netflix que vous pourrez aller découvrir. Et Octobre, Halloween oblige, le film Don't Breathe, la maison des ténèbres. C'est à ne pas rater, c'est un film d'horreur américain, écrit et réalisé par Fede Alvarez. C'est son deuxième film du genre après Evil Dead, remake du film de Sam Raimi. Donc Don't Breathe, c'est l'histoire de trois gangsters qui commettent des cambriolages afin de vendre leur butin. Un jour, ils vont apprendre qu'un vétéran aveugle est en possession de $300,000 en cash chez lui. Donc déjà, lui, il est très malin. Ils vont donc décider d'aller le voler avant que l'opération ne parte en saucisse. Vous l'aurez compris, c'est un film d'horreur. Alors, le film est sorti au cinéma. Il avait déjà rencontré un bon succès avec $157 million au box-office. Et vous pouvez voir ça dès aujourd'hui sur Netflix, histoire de préparer votre soirée d'Halloween ou vous le gardez pour le faire samedi avec les bonbons quand les gamins viendront vous faire chier. On change de genre maintenant, on retourne en enfance. Isaline, est-ce que tu te souviens de ce générique ?
La vie.
Tu peux chanter, hein.
Le
générique fait près de 2 minutes.
Voici la vie.
C'est la série d'éduvertissement, donc éducation, divertissement, mot valise, éduvertissement. Il était une fois la vie, une série française écrite par Albert Barillet en 86, diffusée à l'époque sur Canal+, puis sur France 3. Il était une fois la vie, c'est 26 épisodes de 25 minutes qui racontent comment le corps humain, depuis l'intérieur, fonctionne. On y suit les aventures de Maître Globus, ou Maestro quand il est à l'intérieur du corps. Il va nous raconter dans chaque épisode donc, comment on fonctionne avec un aspect de la vie. Par exemple, le premier épisode, on découvre le fonctionnement des cellules. On parle aussi de la naissance dans le deuxième épisode, etc. Alors évidemment, c'est pas inédit. Les épisodes, a priori, vous les avez tous déjà vus si vous avez un petit peu de bonne... si vous avez passé une bonne enfance, quoi. Mais c'est un chouette programme à re-regarder. Et si vous avez un enfant ou une petite cousine, ça peut être un truc sympa à regarder ensemble, histoire d'apprendre quelque chose. Et en plus, il y a cette musique.
J'avais les VHS de ce truc.
La vie. Non, mais surtout, ce sera la version remasterisée. Donc la version bonne qualité.
Et t'as dit que ça serait où, ça ?
Sur Netflix.
Ah, wow.
Dès demain.
J'ai vu un truc à ce sujet, c'est juste.
En deux mots, vous pourrez aussi retrouver cette semaine le dernier special de l'humoriste canadien Martin Matt, La vie, la mort et Lala, où il parle notamment de Facebook.
Cela dit, près de 2 milliards de personnes vont sur Facebook chaque jour. Moi, j'ai ma page fan, Martin Matt, Facebook, 720 000 amis. On est demain. Et j'ai une page perso, comme tout le monde, avec à peu près 300 amis. Moi, ce que j'aime, c'est dans le fil d'actualité, c'est quand les gens mettent des vidéos ou des photos de ce qu'ils font. Ah! Oh! Ah! Oh! Ça, je trouve ça intéressant. Hein? Hein? Moi, j'ai un de mes amis Facebook, il a 2 enfants. Un samedi matin, il garde 2 amis de ses enfants. Il décide de faire des crêpes pour tout le monde. Ben, il a pris une photo de son comptoir et il a mis ça sur Facebook. Là, ce que je compte là, c'est vrai, là. J'exagère pas, là. Tu vois la photo, là. Tu vois le bol de préparation de crêpes. Tu vois les œufs, le sirop, les ustensiles, la farine. Et il écrit sous la photo « Des crêpes pour 4 préados au matin. C'est de l'ouvrage! » Cathy!
Martin Matt, donc, c'est considéré comme l'un des meilleurs et des humoristes les plus en vogue. Son spectacle « La vie, la mort et Lala » est disponible dès aujourd'hui sur Netflix.
Écoute voir.
Et il est temps de clôturer notre sondage, ce qu'on a fait sur Instagram à l'instant. Quels sont les résultats, Isaline ?
Alors, on rappelle déjà la question. Après plusieurs années à se faire fermer les portes au nez par les diffuseurs, Kery James a enfin sorti son film « Banlieusard » sur Netflix. C'était samedi passé. Alors, est-ce que c'est cool ou est-ce qu'on s'abstient ? Eh bien, on trouve ça cool à 78%, Dan.
On trouve, nos auditeurs en tout cas,
oui.
Sur Instagram.
De manière générale.
De la généralité, 78%, donc ouais. Vraiment, il n'y a pas tant de débat que ça.
Non.
Un petit quart qui pense que...
T'es du même avis, toi ?
Ouais, je trouve cool que les personnes qui ont de la peine à proposer un film dans la distribution générale et un peu normale... puissent trouver chez Netflix un moyen de diffuser assez facilement un film. Mm-hmm. Même si un film, ça reste très cher à produire et à fabriquer, c'est cool qu'ils aient un moyen de distribution. Après, je trouve que le film de Kery James, il a un peu énervé le bonhomme.
Il est toujours un peu énervé, ce
oui,
mec.
Mais là, il est vraiment... Enfin, je sais pas, je trouve qu'il est un peu trop agressif.
Bah, il semblerait que le film soit quand même bon. Il a reçu, je crois, quand même des prix, je me rappelle plus exactement lesquels, mais des prix pour son scénario. Et puis, je sais pas, de manière générale, j'aime bien le fait qu'on donne une voix à ce qu'on essaye de faire taire de manière générale, ouais. Tu vois. Du style, oui, c'est des vraies questions qu'on peut se poser. Est-ce que l'État est responsable de ce qui se passe dans les banlieues ? Ça plaît pas ? Eh ben, tant mieux si on en parle.
Eh ben, c'est disponible sur Netflix, ça s'appelle Banlieusard. Et ton émission qui est en train de se terminer. Merci de nous avoir suivis. C'était Écoute Voir sur cette radio. Une émission que vous retrouvez également en podcast sur notre site cetteradio.ch avec toutes les références de tout ce qu'on a parlé, les petits liens qui vont bien pour pouvoir aller plus loin.
C'était si mignon.
C'était trop bien. Hein. Écoute Voir, c'est donc votre émission consacrée à l'audiovisuel. C'était présenté et animé par Isaline et moi-même, Dan. Et on vous remercie encore une fois de nous avoir été fidèles. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et on remercie avant de terminer celle-ci, Tim à la direction des programmes,
et Antoine
à la production des jingles. Et on vous souhaite une très belle soirée avec
Bisous.
Cette radio.
Écoute Voir, un podcast de cette radio consacré à l'audiovisuel.